Encore à moitié endormi, l'inspecteur principal, Frank Staveux, cherche sa femme, en tâtonnant, quand il se rappelle qu'elle a péri dans un incendie 3 ans et demi plus tôt. Il serre le poing, repousse la couverture du lit. Un air glacial chasse les derniers voiles du cauchemar. Une lumière grisâtre, crépusculaire, se traîne à travers les pans de rideaux damassés que Staveux a dégotés dans les ruines de la maison voisine. Depuis 5 semaines, chaque soir, il les fixe au cadre des fenêtres, avec quelques punaises, achetées au marché noir. Les vitres ne sont pas plus épaisses qu'une feuille de papier journal, et une croûte de glace en tapisse l'intérieur. Staveux craint qu'un jour le verre se brise sous le poids. Peur absurde. Les fenêtres ont vibré et cliqueté sous les ondes de choc d'un nombre incalculable de bombes. Et jamais aucun carreau n'a été soufflé. Dans la trouble clarté du petit matin, les murs de la chambre semblent couverts d'une pellicule de peau calleuse, tellement le dépôt de givre est épais. Par endroits, la couverture du lit est collée au mur par la glace. On distingue par transparence des bandes de papier peint déchirées, un motif moderne pour 1930, des plaques de crépi tachées et pour finir, de place en place, le mur nu, de la brique rougeâtre et un mortier gris clair. Staveux se dirige avec lenteur vers la cuisine exiguë. Le sol dallé glacé lui coupe la plante des pieds malgré les 2 paires de vieilles chaussettes qu'il a enfilées l'une par-dessus l'autre. Les doigts gourds, il s'active à sa Brenex, ce minuscule et primitif fourneau de survie cylindrique, jusqu'à ce que le feu ait pris. Ça pue le vernis brûlé, car le bois avec lequel Staveux nourrit l'appareil faisait partie d'une commode de chambre à coucher récupérée dans la maison mitoyenne soufflée par une bombe en ce mois de juillet 1943. Par la bombe, se dit Staveux, celle qui lui a pris sa femme. Tandis qu'il attend que le bloc de glace fonde dans la vieille marmite de l'armée et que le fourneau diffuse un peu de chaleur dans l'appartement, il se débarrasse du vieux pull-over de laine, puis du survêtement de police, et enfin des 2 tricots de corps et des chaussettes qu'il met pour dormir. Il les range soigneusement sur la chaise branlante à côté de son lit. Comme il n'a droit qu'à 1,95 kW d'électricité par mois, une énergie précieuse qu'il économise pour son réchaud électrique et son repas du soir, il n'allume pas la lumière. Et c'est ainsi qu'il dispose toujours ses vêtements selon le même ordre rituel pour les enfiler dans l'obscurité, l'un après l'autre, et sans risque de se tromper. Visage et corps sont hâtivement aspergés d'eau, dont les gouttes lui brûlent la peau, une eau toujours aussi froide que celle d'un lac glaciaire. Staveux ne peut s'empêcher de frissonner. Il passe enfin sa chemise, enfile son costume et lasse ses chaussures. Il se rase dans la pénombre, prudemment, lentement, sans savon et avec une lame au fil déjà bien émoussé. On ne devrait en trouver des neuves, si toutefois on peut se fier à ce genre de promesses, que dans quelques semaines, à condition d'avoir des bons d'achat. Sur ces entrefaites, l'eau dans la marmite commence à tiédir. Staveux aurait bien aimé un vrai café, comme avant la guerre. Mais il n'a que cet ersatz, un jus de chaussettes brunâtre et fadasse. Il verse l'eau tiède sur la poudre. Afin que cet infect lavasse ait au moins un goût d'amertume, il y joint quelques glands de chêne réduits en poudre, grillés il y a quelque temps déjà. Il avale ce breuvage insipide qu'il accompagne de 2 tranches de pain grisâtre et friable. Petit déjeuner. Ses derniers vrais grains de café, il les a échangés la veille à la gare centrale contre quelques informations dérisoires.